Tegucigalpa, Honduras. C'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael Ponge.
Bonjour Anne, merci. Pays miné par la corruption, la violence des gangs et le crime organisé, pays dont plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le Honduras élisait hier son président et même sa présidente, Xiomara Castro, candidate de la gauche, est en bonne place pour devenir sans doute la première femme chef d'État. On décrypte avec notre invité du jour. Et puis, le vent de la colère qui souffle toujours et encore en Guadeloupe, Benoît Ferrand à la une du journal de la Première Ensemble. Le dialogue entre le ministre des Outre-mer et les contestataires pourrait bien tourner court.
Oui, Sébastien Lecornu doit en principe rencontrer ce matin l'intersyndical et le collectif mené par le LKP en Guadeloupe, en principe, car le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux parties ne sont pas pour l'instant du tout d'accord sur la méthode.
Rendez-vous dans 15 minutes, Benoît, bienvenue à tous. Nous avons gagné, comme pour s'en persuader elle-même dès hier soir. Xiomara Castro, la candidate donc de l'opposition de gauche, revendique la victoire à la présidentielle du Honduras, alors que le décompte des voix est toujours en cours. Ce matin, la candidate du Parti Libre, qui est parvenue à réunir une coalition des partis de gauche et de centre-gauche, dispose de plus de 53% des suffrages, plus de 20 points devant son rival, Nasri Asfoura, soutenu lui par le parti au pouvoir du président sortant.
12 ans, este pueblo en résistance.
Ça fait 12 ans que le peuple est en résistance, 12 années qui n'ont pas été vaines, disait hier soir Xiomara Castro dans sa première déclaration. Aujourd'hui, assure-t-elle, le peuple s'est manifesté et a fait émerger cette phrase « Seul le peuple sauve le peuple ». Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Xiomara Castro peut être bien donc première présidente du Honduras, c'est évidemment la une de la presse du pays.
Oui, on vient d'entendre sa voix si particulière. Quand elle parle, on dirait qu'elle chante, estimait la prensa dans le portrait que le journal lui consacrait début novembre. Mais ce matin, plus qu'une voix, c'est une couleur qui est en une de la presse hondurienne, le rouge. Rouge comme le tailleur de Xiomara Castro, rouge comme les drapeaux de son parti politique, le parti de gauche Libre, des drapeaux qui remplissent les rues de la capitale Tegucigalpa. Un rouge à voir en une d'El Heraldo, avec une photo de la candidate, tout sourire, barrée d'un Xiomara présidente, même si le résultat définitif n'est pas encore tombé. En tout cas, note la prensa, elle prend la tête des résultats officiels. La prensa qui d'ailleurs propose un reportage photo de ces centaines de sympathisants du Parti Libre qui ont envahi les rues après avoir entendu les résultats donnés par le Conseil National Électoral. Une foule largement masquée pour cause de Covid, mais qui n'a pas hésité à s'entasser, on le voit sur les photos, jusque dans les coffres de voitures hérissées de drapeaux rouges et de drapeaux bleus et blancs du Honduras pour célébrer avec des cris de joie le triomphe de Xiomara Castro.
Nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui est un changement pour le peuple, pas pour quelques-uns, pour le peuple qui mérite le meilleur des choses différentes, explique l'un de ses partisans. Christophe, beaucoup de réactions aussi, évidemment sur les réseaux sociaux.
Et on ne sait noticias rassemble celle des membres du Parti Libre, avec à l'honneur celle de Manuel Zelaya Rosales, mari de Xiomara Castro et ex-président du Honduras, victime d'un coup d'État en 2009. Merci à toi, peuple, tu écris l'histoire, nous ne te décevrons jamais, jamais en majuscule, comme le H de histoire. Mais de l'autre côté du spectre politique, hier soir, après les premiers résultats, le parti de droite, le Parti National, raconte la prensa, a demandé à ses dirigeants de ne pas quitter les bureaux de vote, persuadés que leur candidat, Nasri Asfoura, allait finalement remporter les élections générales. Le premier résultat ne le crédite que de 34% des voix, mais il ne porte que sur 16% des suffrages, soulignait le député Jorge Zelaya. Quand la majorité des votes sera comptée, on va voir que c'est le Parti National qui a gagné. Mais pour El Heraldo, les jeux sont quasiment faits, tant la différence de voix entre les deux candidats est grande. Xiomara Castro s'est déclarée gagnante dès hier soir, on l'a entendu. Au sortir d'élections qui, note le journal, ont enregistré une participation importante et qui, selon les observateurs, se sont déroulées dans le calme et la tranquillité.
62% de participation d'après le Conseil National Électoral. Merci Christophe et bonjour à vous, Daniel Vasquez.
Bonjour.
Vous êtes doctorant au CNRS et au Centre d'études mexicaines et centra-américaines. Vous êtes aussi, je le précise, hondurien. Une réaction à cette forte participation, peut-on l'interpréter comme une volonté d'un changement après 12 années d'hégémonie du Parti National?
Tout à fait. Il faut avant tout rappeler que l'actuel président s'est fait réélire en 2017 et que cette réélection a été fortement impopulaire. Elle a été notamment suivie par une fraude électorale et que le parti au pouvoir est est au gouvernement depuis 2010. Donc le vote d'hier, c'était aussi un vote contre ces 12 années de
présidence Orlando.
Qui
s'est mobilisé particulièrement? Est-ce que la jeunesse des électeurs, hein, 4 électeurs sur 10 au Honduras sont moins de 30 ans, est-ce que cela a joué?
Cela a joué, effectivement, et il faut tenir en compte que l'important chamboulement dans cette élection, ça a été le ralliement des différents secteurs d'opposition quelques semaines avant le scrutin. Donc, particulièrement, le candidat à la présidentielle le plus fort de l'opposition des élections de 2017, Salvador Nasralla, qui est à la fois le présentateur de télévision le plus important du pays, a décidé de délaisser sa candidature en faveur de celle de Xiomara Castro, donnant un tournant important pour cette élection, faisant en sorte que des indécis et des indépendants puissent se rallier pour une candidate pour laquelle probablement ils avaient une certaine méfiance, mais c'était plus important de voter pour elle que la continuité du régime.
Du parti au pouvoir, échange de poste, hein, effectivement, enfin retrait, pardon, en échange du poste de vice-président pour Salvador Nasralla. Vous l'évoquez à demi-mot, Daniel Vasquez, vote d'adhésion ou vote de contestation pour Xiomara Castro?
Vote de contestation contre le gouvernement de Hernandez, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est un président qui fait face à des accusations importantes de narcotrafic portées par le tribunal de New York. Son frère a été condamné à la perpétuité pour cette raison et fait prison aux États-Unis. Donc il faut tenir en compte que le candidat du Parti national, Nasr Riaz Fura, était perçu comme le successeur de ce régime, et qui était quant à lui aussi célèbre pour des cas de détournement des finances publiques. Donc d'une certaine manière, c'est un vote notamment contre la classe politique du Parti national.
Comme un coup de balai, j'allais dire. Xiomara Castro donc, semble bénéficier de ce mécontentement généralisé. Toutefois, c'est une candidate qui est très marquée à gauche, à la tête d'une coalition. Elle a déjà reçu les félicitations du Vénézuélien Nicolas Maduro. Est-ce que cela ne risque pas d'exacerber encore un peu plus les tensions, de polariser un peu plus le Honduras aussi?
Absolument. Disons que cette situation dans laquelle se trouve actuellement Xiomara, qui est, comme vous l'avez dit, l'épouse de l'ex-président Manuel Zelaya, qui a été déchu par un coup d'État en 2009, précisément pour son rapprochement à ce courant du socialisme du XXIe siècle, lidéré par Hugo Chavez, Evo Morales et Rafael Correa. C'est précisément pour cette raison qu'il y a eu des tensions très importantes entre les conservateurs et les libéraux en Honduras. Et disons que cette admiration pour ces régimes, et notamment pour le totalitarisme cubain, est encore d'actualité. Donc il faudra voir comment les relations internationales du pays prennent aussi un virage à partir de janvier.
Et notamment, pardon, je vous coupe, Daniel Vasquez, notamment vis-à-vis des États-Unis, qui, eux, sont partisans d'un retour sans doute à l'apaisement dans l'espoir d'endiguer les vagues d'immigration hondurienne à leurs frontières. Malgré tout, ils pourraient regarder avec une certaine méfiance l'accession de Xiomara Castro à la tête du Honduras, non?
Oui, alors il faut dire que l'intérêt de l'Amérique centrale pour les États-Unis n'est plus le même que dans les années 80, avec les guerres internes centra-américaines. Tout de même, il faut reconnaître que la question migratoire, il y a plus de 1 million d'Honduriens sur 9 millions d'habitants qui comptent le pays, qui habitent aux États-Unis, et certaines centaines de milliers en Espagne. C'est une question importante sur laquelle ils ont mis l'accent, ralliant à la question politique, à la question de la corruption aussi, endémique dans le pays. Et ils se sont pour autant présentés d'une certaine manière silencieuse, disons, depuis l'arrivée du gouvernement de Biden, en attendant les nouveaux résultats. Donc, c'est sans doute une porte d'opportunité pour eux, mais aussi ça va représenter un défi dans la mesure où Xiomara Castro, donc, qui remporte plus de 20%...
de 20 points de plus que son rival.
À son rival, oui, avec la moitié des votes comptés. Elle a annoncé que d'obtenir la victoire, elle va intensifier ses relations avec la Chine populaire, la Russie et les alliés dont je vous ai parlé en Amérique latine.
D'où peut-être une certaine méfiance de la part des États-Unis. Elle a promis aussi, Xiomara Castro, vous le disiez, vouloir s'attaquer à la corruption donc, qui gangrène jusqu'au plus haut sommet de l'État, le Honduras. Malgré tout, est-ce qu'elle aura véritablement les mains libres si le reste du pays, des autres institutions, sont encore gangrénées par cette corruption ?
Oui, alors sa capacité d'action dépendra des possibles coalitions au sein du Parlement. On n'a pas encore les résultats, mais aussi, comme je vous le dis, de la direction que prendront les relations internationales. Mais il faut aussi dire que la culture politique dominante dans laquelle elle-même elle est aussi imbriquée est celle de la corruption et de l'inefficacité dans laquelle prévalent le caudillisme, donc son mari étant une des figures les plus importantes de ce personnalisme et de cette manière de faire de la politique avec des relations clientélaires, non, du favoritisme. Et donc on est dans un pays où, si bien l'ensemble des acteurs politiques font preuve de velléité démocratique, la pratique en réalité est tout autre. L'État est perçu comme le butin des vainqueurs et la carrière politique et l'accès à la fonction publique en général répondent surtout à cette volonté d'obtenir un poste et enrichir ses proches et ses familiers. C'est flagrant de regarder comment, que ce soit le parti au pouvoir ou que ce soit les principaux partis d'opposition, mènent dans les principaux postes de responsabilité leur familière.
Une dernière question, et on en termine par là, justement, à propos du président sortant, donc Hernandez, quid de son avenir maintenant, lui dont le frère, vous le disiez, a été reconnu coupable de trafic de drogue aux États-Unis, est-ce qu'il pourrait y avoir une éventuelle demande d'extradition, une extradition d'Hernandez vers les États-Unis ?
Il pourrait éventuellement avoir une demande d'extradition. Ce qui complique l'affaire, c'est que la Cour suprême des États-Unis, souvent, a une posture différente que l'exécutif. Tout de même, la presse locale et, disons, les rumeurs au sein de la société civile, c'est que Hernandez est déjà en train de prévoir un exil, que ce soit en Israël, un de ses plus proches alliés, ou que ce soit, pour que vous regardiez comment la question idéologique n'est pas toujours importante, dans le Nicaragua voisin d'Ortega.
Merci beaucoup, Daniel Vosquez, spécialiste du Honduras, donc, pour votre analyse au lendemain de ces élections générales.
Radio Francia Internationale. Las voces del mundo.
Le Honduras qui est venu clore l'intense séquence électorale du mois de novembre en Amérique latine. Dimanche dernier, c'est le Venezuela qui votait pour des scrutins locaux. Pour la première fois en 15 ans, l'Union européenne avait envoyé des observateurs, ou plutôt des espions, selon le président Maduro, Christophe Paget.
Oui, c'est à la une del Periodiquito. Ils sont venus pour salir ces élections du 21 novembre dernier, affirme le président vénézuélien qui insiste. Ils ont circulé librement pour espionner la vie sociale, économique, politique du pays. La mission d'observateur de l'Union européenne avait souligné plusieurs irrégularités dans son rapport. Un rapport mal écrit et plein d'improvisations, selon Nicolas Maduro, c'est-à-dire dans El Nacional, qui, comme le reste de la presse, se fait l'écho des déclarations présidentielles. Après des élections qui ont vu le parti au pouvoir remporter 90% des gouvernorats et 63% des mairies, les oppositions ont occupé leur espace, s'est félicité hier le président. Le régime n'a rien pu faire contre le dégoût de ses électeurs, juge de son côté El Nacional dans un éditorial.
Enfin, on termine, Christophe, aux États-Unis, où s'ouvre aujourd'hui le procès de Ghislaine Maxwell, la compagne de longue date de Jeffrey Epstein, cet homme d'affaires américain accusé de viol sur mineur. Il s'était suicidé dans sa cellule en 2019.
Ghislaine Maxwell, la fille du magnat de la presse Robert Maxwell, est accusée d'avoir aidé Jeffrey Epstein à recruter des jeunes filles et à abuser d'elles. De fait, l'ombre d'Epstein plane sur le procès, titre le New York Times. Un procès largement vu comme remplaçant celui que son compagnon de longue date, donc, n'a jamais reçu. Du coup, selon un ancien procureur interrogé par le journal, le travail de l'accusation va être difficile. Il ne va pas falloir qu'elle consacre une trop grande partie du procès à Epstein et sa conduite est pas assez à Maxwell. Car le procès devra répondre à cette question, en titre du Washington Post, qui est la vraie Ghislaine Maxwell, celle qui facilitait les choses pour Epstein ou un pion ? Maxwell a rejeté toutes les accusations, rappelle USA Today, qui note que les témoins de l'accusé vont probablement contester la fiabilité de récits qui arrivent des dizaines d'années après les faits, comme souvent. En tout cas, note USA Today, ce procès est la seule chance pour les victimes de se faire entendre dans une cour de justice.
Christophe Paget, il est 8h et quasiment 26 minutes à New York.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Dialogue constructif ou bien dialogue de sourds en Guadeloupe, la rencontre entre le ministre des Outre-mer et les organisations hostiles à l'obligation vaccinale. Cette rencontre risque de capoter avant même d'avoir commencé, Benoît.
Oui, arrivé hier après-midi à Pointe-à-Pitre, Sébastien Lecornu rencontrera les élus guadeloupéens cet après-midi après s'être entretenu, en principe en tout cas, avec l'intersyndicale et le collectif mené par le LKP. En principe, car le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux parties ne sont pour l'instant d'accord sur rien. Éric Rayapin.
Compliqué ce matin d'avoir une véritable lecture de la situation en Guadeloupe. L'amorce d'une discussion entre le ministre et l'intersyndicale a du mal à trouver un accord de méthode. D'abord, sur la composition de la délégation de l'intersyndicale, le collectif des organisations en lutte exige la présence de toutes les organisations, soit 30 personnes. Le ministre parle d'une dizaine possible. Autre nœud, le collectif exige toujours l'arrêt de toutes les procédures et poursuites prononcées et en cours contre les militants, les manifestants et singulièrement les jeunes. Voilà donc qui complique la situation. Dans ce contexte difficile, les élus guadeloupéens proposent une solution de sortie de crise par des réponses qui relèvent de leurs compétences. Seront-ils entendus ? Réponse dans quelques heures.
Voilà donc pour la position de la partie numéro 1. Passons maintenant à la position de la partie numéro 2. Le ministre Sébastien Lecornu, hier soir au micro de Ludivine Guillaume-Léoulac.
J'ai cru comprendre par une déclaration récente que ces différents groupes souhaitaient venir à plus d'une trentaine de personnes. Je le redis, si je me suis déplacé ici ce soir en Guadeloupe, c'est pour certainement pas céder à quelque pression que ce soit, et c'est une réunion de travail que je souhaite, et certainement pas une grand-messe pour faire de la communication. Donc moi, je réitère mon souhait de dialoguer, de discuter avec ces différentes personnalités, mais dans un format d'une dizaine de personnes qui nous permettra de travailler. Je leur dirai aussi que je suis plus que choqué de ce qui a été écrit dans le document qu'ils ont remis à la presse, où ils demandent précisément la libération des personnes qui ont été interpellées ces jours derniers pour des faits de violence contre les policiers et les gendarmes. Moi, je pense que là aussi, il faut de la clarté. La main est tendue, néanmoins, ça reste une main de fermeté. J'accepterai de dialoguer avec ces personnes, mais je leur dirai aussi, droit dans les yeux, qu'ils doivent condamner les violences, d'où qu'elles viennent.
Voilà donc où en était la situation à 7h locale ce matin, midi, heure de Paris. Situation qu'on peut donc, Mickaël, résumer d'une phrase. Ça s'annonce pour le moins compliqué. Sébastien Lecornu doit se rendre demain mercredi, doit se rendre après-demain mercredi en Martinique. Bon après-midi, à demain.
Merci beaucoup Benoît. Et cette situation dans les Antilles françaises, bien sûr, on la suit dans les journaux d'information de RFI. Merci beaucoup aux équipes de La Première. Merci aussi à Claude Battista qui était aujourd'hui à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À retrouver, vous le savez évidemment, sur nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter @RFIAmérique. Très bonne journée à tous et à demain.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.